Shalom Bayit, ça vient de quel mot? Shalom et Bayit. Donc il faut définir ce que c'est Bayit, une maison. Et il faut définir ce que c'est le Shalom. On traduit le Shalom en français comme la paix. Et la paix, il y a différents degrés de paix. Quand il y a cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, bon, alors il n'y a pas de missiles, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de raid aérien. C'est pas la paix. C'est pas un moment de guerre. C'est pas la paix. Alors il y a deux pays qui sont en paix. La France et l'Angleterre, pour l'instant, ils sont pas en guerre, donc ils sont en état de paix. Mais ça, c'est pas le shalom. C'est pas le shalom que la Torah.
De la Torah.
D'ailleurs, bonsoir. Viens de commencer. Parce que si c'est ça le shalom, on est mal. Si le shalom baït entre un homme et une femme dans un couple, c'est le fait qu'il n'y ait pas de guerre. Et chacun fait sa vie. La France, elle fait sa vie. L'Angleterre fait sa vie. Avec le Brésil, sans le Brésil, ça rien même. Chacun, finalement, pense à ses intérêts personnels, à sa vision de la vie. Ils n'ont pas le même but. Il n'y a pas de shalom. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre parce qu'il n'y a pas de terrain commun. S'il y a un terrain commun entre la France et l'Allemagne, ben ça fait la guerre sur l'Alsace. Donc c'est, en fait, c'est un état de paix parce qu'il n'y a pas de confrontation. Chacun a ses intérêts, chacun... Et si jamais il y a des terrains où il y a un petit peu de confrontation, alors on va essayer de ne pas, pour ne pas exploser en guerre, on va essayer de se débrouiller, de trouver des solutions pour ne pas rentrer en conflit. Ça, c'est pas le shalom. Le shalom, en fait, c'est l'unité entre deux personnes. Deux personnes ou deux visions de la vie. Au se shalom bimromav, où il y a assez shalom aleinu, celui qui fait le shalom entre les malachim. Dans le ciel, il y a le malach Gabriel, l'amida de Gvura, malach Michael, l'amida de Chesed. Et chacun comprend sa qualité et la qualité de l'autre, sa place, la place de l'autre. Et ils comprennent que le Kavod HaKadosh Baruch Hu, il viendra justement de cette entité entre ces différentes parties, différentes approches, ça va créer une harmonie et un Kavod HaKadosh Baruch Hu. Donc le shalom qu'on aspire quand on se marie, c'est ça. C'est pas que j'ai mon intérêt personnel, ma femme a sa vie, ses centres d'intérêt. Seulement, on va vivre dans la même maison. Et on va un petit peu aider l'autre. Hein. Ma femme va me préparer à manger, moi je vais amener un peu d'argent à la maison. C'est pas ça le but quand on se marie. Et parfois, au fil du temps, parfois parce qu'il y a des problèmes, parfois parce qu'il n'y a rien. Alors après, ce qu'on recherche juste, c'est qu'il n'y ait pas de guerre. On vit deux vies distinctes, il n'y a pas tellement d'intérêt au commun. Et on veut qu'il n'y ait pas de guerre. Alors on demande comment je peux faire à un thérapeute, comment je peux faire pour éviter la guerre, ou comment je peux faire pour qu'il y ait un certain intérêt en commun. On n'est pas dans le shalom, pas dans le shalom baït. C'est pas ça que la Torah préconise et aspire pour le couple. Alors qu'est-ce que c'est ce shalom qu'on aspire et pour lequel on s'est réunis ce soir en fait? Comment on définit le shalom?
L'alliance.
C'est-à-dire?
Des alliés.
Deux alliés. Alors deux alliés déjà, c'est un beau machal. Parce que si on parlait d'État, on prend des alliés. Que ce soit pendant la guerre par exemple... Il y a eu l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, les Français. Bon, ils avaient tous un ennemi commun, c'était l'Allemagne, l'Asie. Alors ils se sont alliés pour faire la guerre, c'était les alliés. Et donc maintenant, aujourd'hui aussi, on a des intérêts communs. Économiques ou stratégiques, politiques. Alors on s'allie dans un même but. Donc c'est vrai que déjà, on est plus proche du shalom. On est alliés vers un même but. Seulement, quand on parle d'alliés de façon générale dans la vie, ça reste deux personnes qui ont leur vie personnelle. C'est-à-dire sur quelque chose, ils s'allient. La France et les États-Unis, ils n'avaient rien en commun, si ce n'est essayer de mettre de côté Hitler. Mais parfois, il y a des alliés plus forts, qui sont plus liés. Le mot alliance, le mot bride dans la Torah d'alliance, il est beaucoup plus fort que des alliés pour un intérêt particulier. Un bride, c'est très fort dans la Torah. Que ce soit le bride Mila, le bride Benoctarim, c'est vrai que c'est un mot... D'ailleurs, les Nisouin aussi, ça s'appelle. C'est vrai que les Nisouin, le mariage, ça s'appelle un brit, une alliance. Donc c'est vrai que l'alliance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que juste s'associer ensemble. Ou... L'idée de brit que tu rapportes, quand on fait un brit, alors on coupe. Koret berit, ça s'appelle koret berit. On coupe. Qu'est-ce qu'on coupe? On coupe alors là, dans la brit mila, on coupe autre chose. C'est quoi? C'est que on dit sans toi, je ne peux pas vivre. Je coupe une partie de moi, et cette partie-là, je te mets avec moi. On ne peut pas vivre, c'est vrai que dans le mariage, c'est ça, on ne peut plus vivre sans l'autre personne. Bon, donc le bride, déjà, ça aide un peu plus à comprendre ce que c'est le mariage. Mais il faut aller, c'est de voir un peu plus profond. Pourquoi on se marie d'abord. C'est quoi le but du mariage? Pour définir le mariage, il faut voir qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce que l'homme recherche, qu'est-ce que la femme recherche. Pourquoi on se marie? Alors tout ça, quel rapport entre ça et après le shalom bayit qu'on a l'habitude de dire avec les petites mésententes, etc. C'est un grand rapport parce que quand on a une société et il y a des petits problèmes, etc., à droite, à gauche, au niveau des finances, des... Alors si on ne sait pas quel est le but de cette société, alors on se dit, bon, si je vais acheter les... Je vais faire, par exemple, une fois, il y avait un bonhomme, il avait une société, et il voit que ça ne marche pas trop. Alors il emploie quelqu'un qui va venir pour essayer de rehausser le niveau de cette société. Maintenant, il est mal tombé. Il est tombé, en fait, chez... Il a employé quelqu'un qui était d'une société qui était, en fait, en compétition, en concurrence avec cette société-là. Alors, qu'est-ce qui vient, le bonhomme? Il vient, il dit... Il fabriquait des... Je ne sais pas moi, des médicaments. C'était une usine de pharmaceutique. Alors, il voit le... Il dit, c'est pas agréable, la salle ici où les employés ils travaillent, c'est pas agréable. C'est pas agréable, je pense qu'il faut refaire tout. Les vitres, les chaises, elles sont pas assez confortables, il faut refaire. Il dit, quel rapport entre ça et les gains, ça va faire encore des dépenses? Il dit, non, t'inquiète pas, si tu dépenses pour le bien-être des employés, c'est bien. Comme Google et tout cela, ils font, on est à l'aise, etc. Très bien. Donc, il met comme ça encore 100 000 et il investit. Après, il vient et il dit, tu sais, la vérité... La machine à café payante, là, c'est pas ça. Il faut faire un bon coin café avec les gâteaux, le café. Alors, il lâche comme ça. Après, il faut de temps en temps, il faut faire des activités pour les employés. Bon, bref, pendant quelques mois, il fait comme ça. Après, ça coule complètement. Déjà, il avait des pertes. Il faut d'abord définir. Si le but, c'est de gagner de l'argent quand tu ouvres une société, alors il faut réfléchir. Le but, c'est pas le bien-être des employés. C'est important, le bien des employés. Mais si ça vient sur le compte complètement de l'objectif de base, tu peux pas. Donc pour savoir quel choix tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre de côté, dans quoi tu vas t'investir, celui qui pense que le but dans sa vie, c'est telle chose, réussite professionnelle ou la réussite sociale. Et le mariage, c'est un moyen de me faciliter cette réussite sociale. Parce que ça me permet de... D'abord, les gens, ils acceptent plus quand quelqu'un est marié, parfois. Encore aujourd'hui, ça reste encore un petit peu cette notion-là. On est un peu plus accepté pour avoir un poste important. Ça va me faciliter pour manger, pour... s'occuper des enfants, et après je peux réussir ma vie personnelle, professionnelle, sociale ou autre. Alors dans ce cas-là, dès qu'il y a un problème avec sa femme, dès qu'il y a une complication, alors en fait sa femme lui casse la tête au fond, elle le dérange. Donc il faut juste qu'il règle ce problème pour pouvoir reprendre son objectif de base. C'est comme ça qu'il va voir les choses. Mais si quand il s'est marié, ils avaient un but commun, de créer quelque chose ensemble, qu'il faut définir, à ce moment-là, ce problème-là, il vient pas, c'est pas une embûche dans ma route professionnelle. C'est quelque chose qui me révèle que j'ai du travail à faire. Je dois creuser quelque chose ici. Je dois essayer d'approfondir un peu plus. C'est quoi le mariage? C'est quoi le couple? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce que j'ai recherché avant? Qu'est-ce que je recherche maintenant? Pour pouvoir bien bâtir son couple. Les petits... Quand la femme, elle se plaint, par exemple, que le mari n'est pas assez à la maison. Alors, si le mariage, c'est qu'un moyen technique pour régler certaines choses, alors ça l'énerve. Donc, il va donner 5 minutes pour pouvoir être tranquille. Après, il va partir. Mais s'il comprend qu'en fait, là, sa femme est en train de lui dire, elle n'est peut-être pas consciente, mais en train de lui dire, en fait, notre couple, il passe complètement à côté de la vie. On a les choses importantes, entre guillemets, de la vie, que ce soit les vacances, que ce soit la réussite professionnelle. Et finalement, deux individus qui passent leur vie chacun dans son centre d'intérêt. Et ça me plaît pas. Elle dit ça avec ses mots à elle. Elle dit, mon frère, on se voit jamais, etc. Elle est en train de dire, le couple, il est important pour toi ou il n'est pas important pour toi? Donc, c'est bon, il n'a jamais défini quelle est l'importance du couple pour lui. Il ne comprend pas le message de sa femme. Il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'elle lui veut. Et ça le dérange. Il faut d'abord réfléchir bien qu'est-ce qu'on recherche dans notre mariage, pourquoi on se réunit ce soir encore une fois, sans problème. On n'a pas de problème, tout est bien. Mais on veut avancer. On veut approfondir, on veut... Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses, là, toi, du mariage?
Autour de ta table. Moi, je pense que c'est une construction à deux, c'est avancer, passer les épreuves ensemble, je sais pas, c'est apprendre à se connaître et à avancer ensemble.
Alors, Rabbi Ilan, qu'est-ce que vous dites?
Quoi, moi, depuis, ouais. On a eu un bon moment. Voilà. Moi, je dis comme ça, c'est qu'il faut donner. Donner sans attendre en retour.
J'entends, mais je comprends pas.
Ah! C'est-à-dire si tu attends en retour, c'est-à-dire si tu le donnes.
Non, mais ça, c'est très bien ce que vous dites. Mais ça, c'est quelque chose de... C'est magnifique. Seulement, ce n'est pas l'objectif. Personne ne se marie pour donner. Moi, je veux définir l'objectif du couple. Le but à la base, quand
déjà,
je parle...
c'est comme il a dit, de construire à deux, mais voilà, si, construire à deux. Si on donne, on attend.
Non, je comprends ce que vous dites, mais quand j'ouvre un magasin, mon but c'est de gagner de l'argent. Comment je vais faire? Je vais employer des employés, je vais louer un local, je vais acheter la marchandise, ça c'est des choses techniques. C'est important de donner dans le couple, mais c'est pas le fondement du couple. C'est pas du tout, à mon sens, c'est pas du tout le fondement du couple. C'est pas mon objectif quand je me marie, parce que sinon j'ai qu'à chercher la femme la plus faible, la plus... Une femme, allez nous, qui est handicapée, qui a besoin tout, que ce soit au niveau psychique, psychologique, physique, mental, j'en sais rien, et je vais lui donner, je vais faire Ezermition, je sais pas si vous connaissez en Israël, Ezermition, Yatsara, etc., et je vais faire un Irgun. Pas la peine de se marier, on peut aller à l'hôpital, il y a des gens malades. C'est pas le but du mariage.
C'est un moyen.
C'est important. Donner, c'est très important, personne ne dit l'inverse, mais c'est pas le but du mariage. Ah, je pense que c'est pas le but du mariage.
Alors les enfants?
Les enfants. C'est vrai que c'est compliqué d'après la Torah d'avoir des enfants hors mariage. La Torah n'aime pas ça. Mais c'est pas non plus le but du mariage. Je pense pas que ce soit le but du mariage. Quelqu'un pense que c'est le but du mariage, qu'il me le dise. Parce que si c'est le but du mariage, alors il y a un problème. Celui qui malheureusement n'a pas d'enfants. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Mais il n'est pas tour de se marier.
Il n'est pas tour de se marier.
Non, c'est une question.
Il n'est pas tour de se marier. Mais de toute façon, la question dans le mariage... Quand je me suis marié, c'était pas pour accomplir une mitzvah. Je pense que personne ici ne s'est marié pour accomplir une mitzvah.
Est-ce qu'il y a une mitzvah de se marier?
Oui, il y a une mitzvah de se marier. Mais on se marie pas pour accomplir la mitzvah de prière verilière. On se marie parce qu'on a envie de se marier.
C'est à sourd, ça.
Ah bon?
Non, parce qu'on a un besoin.
De faire quelque chose en dehors du cadre de la mitzvah, c'est... J'avais entendu un cours sur ça, c'est grave.
Mais il faut... Léat, doucement.
C'est sûr qu'au départ, on se marie, on n'apporte pas forcément au Pérou.
Pour vous. C'est bien de penser aussi à la mitzvah de pour vous. Mais si quelqu'un, par exemple, ne peut pas avoir d'enfant, et il se marie, alors d'après ce que tu dis, il est en dehors du cadre de la Torah. Comment ? Non, il ne peut pas avoir d'enfant.
C'est à l'avance.
Quelqu'un qui sait d'avance qu'il ne peut pas avoir d'enfant, ça existe. Des gens qui n'ont pas d'enfant, qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Sans rentrer dans les détails.
Ils ne savent pas forcément d'avance.
Ouais. En général, ils ne savent pas d'avance. Mahadine. Non, mais c'est juste.
Il faut divorcer après 50 ans. Voilà,
c'est juste. Non, mais après, c'est pour la construction aussi de la famille, on comprend. Mais.
Même une partie du mariage, avoir des enfants.
C'est une grande partie du mariage. Une très grande partie du mariage, mais c'est
sinon,
pas.
En réalité, on n'a pas trop intérêt de se marier.
Alors, si c'est comme ça, c'est délicat. C'est délicat parce que dans ce cas-là, malheureusement, je vais juste expliquer. Là, ce qu'on est en train d'approfondir ensemble, c'est pas des paroles en l'air. Tout le monde sait ici. Qu'à 40 ans, 45 ans, 50 ans, combien de couples qui divorcent parce que les enfants ont quitté la famille, la maison, il n'y a plus d'intérêt commun. Non, je parle maintenant de cette facette-là. Je parle de la facette. Il y a beaucoup de.
C'est eux qui font.
Il y a beaucoup de causes. Une seconde. Il y a beaucoup de causes de divorce. Mais une des causes qui a trait à ce qu'on parle maintenant, c'est le fait que des gens s'arrangent entre eux pendant quelques années, 20 ans, 30 ans, et après, ils divorcent. Alors, certaines personnes. En réalité, il y avait un problème de base. Seulement, ils se sont battus pour pouvoir protéger leurs enfants, et ensuite, ils divorcent. Mais d'autres personnes, c'est un peu ce que vous dites. Leur intérêt commun, c'était les enfants. Le jour où les enfants ont quitté la maison, ils s'ennuient entre eux. Ils s'ennuient l'un avec l'autre. Mais qui je me suis marié? Et ils divorcent. Et après, pour rechercher autre chose dans la vie. Mais ça montre qu'il y a un problème. C'est pas que on est dans ce cas-là. C'est juste pour essayer de remarquer que si le mariage... C'est que les enfants, je connais des gens qui n'ont pas d'enfants. Alors quoi, ils ne sont pas mariés? Le Chazonish, j'en avais comme exemple, il n'avait pas d'enfants. Le Rabbi Lubavitch n'avait pas d'enfants. Il y a des grandes personnalités qui n'avaient pas d'enfants. Alors leur mariage n'avait aucun sens. C'est vrai qu'au moment du mariage, ils ne savaient pas qu'ils n'allaient pas avoir d'enfants. C'est vrai. Donc ils ont fait aussi dans l'optique d'avoir des enfants, faire la mitzvah de Priya Verivia. Mais alors que leur mariage était levatala, était pour rien, en vain.
Et la stabilité d'un homme, c'est pas qu'il justement il est marié.
Je suis d'accord. Là, on se rapproche plus du mariage. La stabilité d'un homme par le mariage, la relation de l'homme par le mariage, ça se dit plus proche du mariage. Ouais. Je nie pas le fait que le mariage c'est aussi important pour avoir des enfants. Sinon, c'est pas le but du mariage. Parce
c'est
que
c'est d'être chalem.
D'être chalem, de se réaliser, d'être entier. Là, après, il faut travailler sur ça. Parce que c'est des mots très vagues.
On a lancé le mot.
Voilà, c'est des mots très vagues. Mais je pense que c'est important. Parce que si on.
Ça ne serait pas les enfants qui te rendent entier ?
Non. C'est écrit dans le pasouk. On va. Je veux. Avant de ramener les psoukim, je ne vais pas ramener. Le but, c'est pas d'étudier des psoukim. Le but, c'est de réfléchir ensemble. Comment?
Pourquoi ça serait challenge?
Alors, il faut travailler ça. Mais juste, je reprends ce qu'on vient de dire il y a deux minutes. S'il y a un couple sans enfant, c'est vrai, souvent, il a du mal à se réaliser. Et parfois, c'est divorce, parfois, ils sont amers, etc. Mais il y a des très beaux couples sans enfant. Je connais des très beaux couples sans enfant. Dans ma famille aussi, je connais des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ont des très beaux couples. Donc on peut se réaliser dans le mariage sans avoir d'enfants. C'est sûr que l'un des buts du mariage, l'une des réalisations de la famille, c'est de fonder une famille, c'est d'avoir des enfants, mais ce n'est pas le seul but. Pour rajouter, si le but c'était ça, peut-être qu'Hachem il aurait pu faire autrement les choses. Peut-être qu'il aurait pu faire en sorte qu'on ait des enfants. Même le fait d'amener des enfants. On peut amener des enfants sans mariage, hors mariage. Ça existe. Après, il y a des familles monoparentales, etc. On peut. La Torah ne veut pas. Mais pourquoi elle ne veut pas? Il n'y a pas d'équilibre pour les enfants. Mais elle a fait en sorte de faire comme ça. Hachem l'a fait comme ça parce que justement, cet équilibre, il découle d'abord d'un équilibre dans le couple. Il y a une marloquette d'ailleurs intéressante entre Rashi et le Ramban. C'est écrit dans le Passouk. Alken yaazov ish et aviv et imo vedavak beishto vayu le basar echad. L'homme, dans Parashat Bereshit, c'est vraiment le début de la création du monde, l'homme va abandonner ses parents, Vedavak Veishto, il va se lier, s'attacher, se coller à sa femme, Veayu le Basar Echad, ils seront une seule chair. C'est-à-dire quoi, ils seront une seule chair? Ils seront un seul être. Comment ils seront un seul être? Rachid dit, par le biais des enfants. L'enfant, c'est le fruit des deux. Ça, Rachid dit. Donc ça rejoint un peu votre idée. Le Ramban, il dit pas du tout. Et si quelqu'un n'a pas d'enfant, on ne parle pas encore ici d'avoir des enfants, quand il s'unit avec sa femme, dans un autre cours, on verra que Bezrat Hashem, le summum de ça, c'est évidemment la mitzvah de Ona, qui n'a rien à voir avec la mitzvah de Prourvou. Mais, en tout cas, ce Vayou le Basar Echad, c'est le but du mariage. Et cette réalisation du mariage, elle peut amener encore quelque chose de noble, qui est d'avoir des enfants. C'est noble d'avoir des enfants, mais c'est le fruit, la résultante, le résultat de Vayou le Basar Echad, que la Torah espère pour l'homme et la femme, pour l'unité qui est le couple. D'ailleurs, la Torah, quand elle commence, pourquoi Hachem l'a créé Chava? D'après ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est pour avoir des enfants. Et pourtant, Hachem, il cholek sur nous. Lotov.
C'est pas parce que le nom était seul à Adam.
Voilà,
il a dit
exactement. Lotov et Yot à Adam Levado, et c'est l'eau Ezer Kenegdo. Ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. L'otov yota adam levato, ce n'est pas bon. Et c'est l'o ezer kenegdo. Je vais lui faire un ezer, une aide kenegdo face à lui. C'est la femme. Et là, il a endormi Adam, il a fait une anesthésie générale, etc. Il a pris une côte et il a fait Chava. Il a façonné Chava. Donc, ça n'a rien à voir avec les enfants. C'est pas écrit, un homme ne peut pas avoir d'enfant sans femme, donc je vais créer une femme. C'est écrit, ce n'est pas bon pour l'homme d'être sans femme, d'être seul. Il faut voir pourquoi ce n'est pas bon. Mais c'est ça le but du mariage. Donc celui qui ne ressent pas le lotov avant le mariage et il se marie, c'est délicat. C'est délicat parce que comment on ne peut pas apprécier quelque chose si on n'a pas ressenti le manque. Celui qui va acheter à franc prix du jus d'orange parce qu'il a soif, parce qu'il aime bien le jus d'orange, il sait apprécier, il va être mieux avec son jus d'orange. Il ne va pas aller acheter le jus d'orange parce qu'on lui dit maintenant je dois aller acheter le jus d'orange. Il va l'acheter parce que ça m'intéresse de l'acheter. Donc quand la Torah elle te dit tu as une mitzvah de garder ta santé, donc ton corps ressent le besoin de garder, de préserver sa santé, et il va s'occuper. Donc c'est la volonté d'Hachem justement de penser à son corps. Alors Léa dit, je ne dis pas que c'est la même chose, mais quand on se marie, c'est qu'on ressent le lotov sans femme, et pas sans femme dans le façon znout, façon extérieure des plaisirs futiles qui n'ont aucun rapport avec le mariage, mais la réalisation du mariage. Lotov, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour un homme d'être seul. Non. Et être avec sa femme, c'est être marié. C'est pas en dehors du cadre du mariage. On parle pas ici de plaisir charnel et on passe comme les animaux. Ça, le Ramban, il explique la différence entre l'homme et l'animal. C'est que l'animal, au moment de la reproduction, un mâle et une femelle se rencontrent. Évidemment, Hachem, il a fait des instincts chez le mâle, chez la femelle, pour la reproduction. Ils se connaissent pas, ils se quittent, il n'y a plus rien. Alors que chez l'homme, c'est pas comme ça. Il y a des hommes, malheureusement, qui font comme ça. Ils laissent des femmes avec des enfants, etc. C'est dramatique. Mais ce que la Torah préconise, plus que préconise, c'est pas ça. C'est qu'ils fassent, ils apprennent à se connaître, et après ils ont un enfant. C'est sûr que la vision de la Torah du mariage, elle est beaucoup plus élevée, beaucoup plus profonde que Chas v'Shalom, juste procréer, la reproduction, etc. Ça n'a aucun rapport avec l'approche de la Torah du mariage. Ça, c'est un point important. Il faut le ressentir, parce que juste croire en ça avec des grands mots comme ça, se réaliser, etc., mais ça reste dans le vague, ça, c'est pas ça qui va vraiment nous permettre d'avancer. Quand on a des grandes idées, par exemple la Emouna, tout le monde croit en Dieu. Une fois, je parlais avec quelqu'un, quand j'habitais en Israël, je parlais avec quelqu'un qui était francophone et qui habitait en Israël. Et bon, il avait un grave problème de couple, mais bon, je suis enregistré, on va laisser tomber cette histoire. Ouais, d'accord. C'est pas ça qui va vraiment nous faire avancer. Ça, c'est l'importance de chaque chose dans la vie. On fait parfois un bilan. En fin d'année, on fait un bilan de la société, on voit ce qui se passe, si on gagne, si on en perd, etc. On est obligé. On redéfinit l'objectif, s'il faut licencier une partie du personnel parce que ça ne fonctionne pas, au contraire, il faut recruter. On est obligé de réfléchir, on a un objectif de base. Et après, en fonction de la situation, donc l'important, dans le coup, c'est d'abord de bien fixer l'objectif. Et ensuite, en fonction de ça, si quelqu'un vient, il te demande combien de temps il faut passer à la maison le soir. Alors ça dépend comment, ça n'a aucun sens la question, ça dépend comment il voit le mariage. S'il voit la maison comme un passage pour avoir des forces, pour pouvoir continuer sa vie à l'extérieur, dans ce cas-là, le moins de temps possible, seulement le minimum qui lui suffit pour se reposer, pour pouvoir continuer. S'il pense qu'il a, pareil dans la discussion, et on sera le sujet d'un autre cours, mais la discussion, l'échange, la communication, pour beaucoup la communication dans le couple, c'est un moyen technique, comme au travail, de faire passer des données, les enfants, etc. Un tel, il a besoin qu'on l'aide dans les devoirs, un tel, il faut l'emmener chez le dentiste. Et après, il ne comprend pas pourquoi sa femme, elle dit, mais on ne s'est pas parlé depuis 3 jours, etc. Ça fait 3 jours qu'elle le saoule avec le dentiste, elle le saoule avec la facture, elle le saoule avec... Donc, il a parlé beaucoup avec sa femme. Pourquoi elle dit qu'ils n'ont pas parlé? Mais réellement, pour elle, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas du tout parlé. Ils ont parlé que de choses techniques, donc ils ne se sont pas assis ensemble avec une tasse de café à discuter. Mais si pour lui, le mariage, c'est un moyen de faire avancer les enfants, de faire avancer son travail, etc., il n'y a pas un but de se connaître et de faire un, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt de parler. Si ce n'est les choses techniques qui vont aider à s'occuper des enfants. Ils ne vont pas parler d'eux-mêmes, ils ne vont pas parler de leurs projets, de leur personnalité, de leur perception de la vie, puisque ce n'est pas important pour eux, ils n'ont jamais... Donc même cette question de communication, on a un regard totalement différent sur cette question. La mitzvah de mitzvah ona, la même chose. Si le mariage, il n'a pas un but de faire un, alors cette mitzvah, c'est un truc qu'on fait au passage. On a des besoins physiques, ou alors il y a une mitzvah d'avoir des enfants, ou alors on ne veut pas penser à d'autres, ou j'en sais rien. Et on fait ça banalement, naturellement, et on continue. Et l'homme, il est déçu, et la femme, elle est déçue. Alors que si on remet ça dans un cadre général, plus avancé, plus profond, tout prend une autre forme. C'est vrai qu'on est obligé de s'attarder sur cette question. Obligé de s'attarder. Du lotov yotam levado et c'est l'ozer kenegdo. Pour ça, il faut étudier. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je propose à chacun d'étudier ces sougyot-là dans la Gemara, dans les Rishonim, dans le Chumash. Qu'est-ce que la Torah a à dire sur le mariage? Parce qu'en réalité, souvent, quand on va chez un thérapeute de couple, il ne va pas définir avec la personne quel est le but dans le mariage. Il va essayer de lui proposer des solutions techniques pour pouvoir s'arranger. Un exemple banal. S'il n'y a plus de passion, alors qu'est-ce qu'un thérapeute va dire, parfois? Séparez-vous, il va revenir au même système que le système de Nida, de Taharat HaMishpacha. Il va dire pendant 2 semaines, gardez vos distances, comme ça après, il y a un renouvellement. Bon, c'est une bonne thérapie pour quelques mois. Le temps qu'il paye le thérapeute, donc ils sont assez... Comme ça coûte cher, donc ils sont prêts à s'investir et à faire les efforts. Et une fois que les quelques mois y passent, ils arrêtent d'aller chez le thérapeute. Donc ils arrêtent aussi de faire ce geste-là, cet exercice. Et après, ça retombe dans la routine et ça ne marche plus. Parce qu'ils n'ont jamais redéfini vraiment ce que c'est leur couple. Ils ont cherché un moyen technique de faciliter l'échange, de faciliter la communication. Si tu donnes des techniques pour améliorer la communication, c'est très bien, c'est magnifique. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment transcender, qui va vraiment faire avancer les choses. Ça peut régler les problèmes urgents. Et il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Il faut aussi, un problème urgent, on est obligé de s'occuper. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment faire avancer. Par contre, essayez d'étudier, si on essaye d'étudier par exemple la Gemara dans Yevamot, Gemara dans Yevamot, toute une sugia, Charoui Belo Isha, un homme qui est sans femme, comment il est? Charoui Belo Simcha, Belo Choma, etc. Il y a beaucoup de termes dans la Gemara. Un homme qui n'est pas marié, c'est un homme qui n'a pas différentes qualités de vie présentées dans cette Gemara. Maintenant, ces qualités de vie, il faut voir comment le mariage apporte ces choses-là. Par exemple, Charoui Belo Simcha, sans bonheur. Il faut définir ce que c'est le bonheur. Le bonheur et le plaisir, ça n'a aucun rapport. Donc s'il comprend que ça veut dire le plaisir, bon, alors s'il a une femme, alors il peut prendre du plaisir. Dans ce cas-là, il va chercher d'autres femmes. C'est plus agréable de ne pas être marié, comme les goïms aujourd'hui, et de trouver son plaisir, ça bouge plus. Donc c'est pas ça la simcha. C'est une certaine sérénité qu'il retrouve dans le mariage. Si c'est juste s'occuper des enfants, ça apporte pas tellement de sérénité à la personne. C'est sûr qu'il y a un trazé shalom. Je suis pas en train de dire que c'est pas important et que ça donne pas de réalisation à la personne. Mais on peut pas limiter le mariage à ça. Ce que je veux dire, c'est que même quand on s'occupe des enfants, si on réalise qu'en fait, pour Akadosh Baruch Hu, c'est plus important le couple que les enfants, chaque fois ça m'interpelle. Quand on dit à quelqu'un, il faut que tu fasses tes shuvah, comme ça après tu peux transmettre. C'est dommage, il y a une chaîne dans la génération, il y a une chaîne avec des anneaux. Alors si tu brises ton anneau, alors dans ce cas-là, on ne pourra plus transmettre. Souvent on entend ce machal, j'ai jamais compris ce machal. Ça veut dire qu'en fait, moi je suis qu'un maillon de la chaîne pour pouvoir transmettre la prochaine génération. Et mon père, c'était quoi? C'était un moyen de me transmettre. Et moi, je suis un moyen de transmettre à mon fils. Et c'est quoi le but? D'arriver à la génération de Mashiach? Ça n'a aucun sens. La raison pour laquelle je dois avancer dans ma vie, c'est pas parce que mon fils, comme ça, après, il part d'un meilleur point. C'est pas pour transmettre à mon fils. C'est parce que moi, je suis important. Ma femme et moi, on est important. C'est pas mon fils qui est important. D'abord, ma vie, elle est importante pour Akadosh Baruch Hu. Si la mienne n'est pas importante, alors celle de mon fils non plus n'est pas importante. Ça n'a aucun sens. Ma vie est importante, mon couple est important, avant de parler des enfants. Maintenant, bien sûr qu'une partie de la personne, c'est ses enfants. Mais même quand il s'occupe, quand il parle avec sa femme des enfants, des questions de chinour, de ses enfants, est-ce qu'il voit ça juste comme sa femme, c'est un moyen de régler les problèmes des enfants, de faire avancer les enfants? Ou alors non, les enfants, ça va permettre à l'homme et à la femme de mieux se connaître, de mieux réfléchir ensemble, de mieux construire ensemble leur objectif commun. C'est sûr, comme vous dites, que l'objectif commun principal des parents, c'est de fonder une famille et d'avancer avec leurs enfants. Mais réaliser que c'est pas, ils sont pas un moyen de faire avancer les enfants, mais les enfants, ça permet eux de les réaliser, ça change beaucoup. Ça veut pas dire que chaque jour, quand ils vont s'occuper des enfants, ils vont dire bon, je fais ça pour moi et pas pour mon fils. Bien sûr qu'il fait ça pour son fils. Mais de temps en temps, il réalise que c'est ça qui le construit, c'est ça qui construit son couple. Et ça, c'est important pour Akadosh Baruch Hu. C'est important pour Akadosh Baruch Hu. Par exemple, un père, ce qu'il veut, c'est que son fils, il a un bon mariage. Si Chas Veshalom, il a un beau mariage, une belle soirée de mariage, mais après, ça ne marche pas le couple, ça détruit les parents. Et si leur couple ne marche pas, c'est pas destructeur, c'est pas triste en soi. C'est triste en soi. Et s'ils ont un beau couple, alors Hachem, il est heureux. Réaliser cette importance-là, ça permet... Après, ça nous donne les forces. Au jour le jour, au niveau de la communication, au niveau de l'échange, au niveau du respect... Tous les sujets qui viennent après, le respect de la femme, le respect du mari, tous ces sujets-là, ils prennent un autre... C'est une autre approche, un autre regard à ces questions. Bon, je pense que ça, c'était l'introduction à ces cours-là. Maintenant, je laisse à chacun le choix d'étudier ces sujets, d'étudier le Ramban de Yayoulé Bassarecha, d'étudier la Gemara dans Yevamot. Quand je voudrais parler d'un point plus pratique... Alors, mais je vais d'abord faire un petit tour de table. Comment vous appelez? J'ai oublié.
Benjamin,
qu'est-ce que vous pensez? Quel est le point, à votre sens, le plus crucial qui peut définir si le mariage va réussir ou rater? Bon, c'est une question un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de points. Mais comme ça, on avance ensemble. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, il est déjà passé votre tour, c'est bon.
Alors, qu'il faut déjà beaucoup écouter l'autre.
Écouter l'autre.
Pour apprendre déjà à la connaître et à connaître l'autre personne. Et c'est quelque chose de classique. Bon, après, c'est beaucoup aussi de modestie pour pouvoir accepter ce que l'autre pense et essayer d'avancer ensemble.
Bon, ça, déjà, après, on va développer. Qu'est-ce que vous dites, Jonathan? Qu'est-ce que vous dites? Comment?
Tu as retenu mon prénom, c'est bien.
Alors, bah, il a dit qu'il faut écouter. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites?
Ce que dit.
Khazak. Et vous, Rabbeinu?
Surtout avoir un projet et aller dans le même sens.
Un projet et aller dans le même sens. Toi, qu'est-ce que tu dis?
C'est trop compliqué.
Non, c'est... Chacun de nous doit réfléchir, parce que chacun a sa perception, qu'est-ce qui est primordial dans le couple. Et tout est primordial. Tous les sujets qui ont été dits et qui vont être dits sont très importants. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que l'organe le plus important, vital, est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est le foie, est-ce que c'est le cerveau, est-ce que c'est les poumons? Sans poumons, on ne peut pas vivre. Allez-nous. Sans foie, on ne peut pas vivre. Sans rein, on ne peut pas vivre, etc. Alors qu'il y a d'autres choses comme les bras, les pieds. Bon, on peut éventuellement se débrouiller sans, mais la personne est handicapée. C'est très important, mais alors qu'il y a d'autres choses qui sont vitales, d'autres organes qui sont vitaux, c'est sûr. Mais c'est intéressant ce que vous dites par rapport à écouter l'autre pour apprendre à le connaître. Alors je voulais dire, c'est pour apprendre à le connaître, ça c'est en rejoint ce qu'on a parlé avant, l'un des buts du mariage et l'une des réalisations du mariage, c'est Vayeda Adam et Chava Ishto. Adam a connu sa femme Chava. C'est pourquoi il a connu sa femme. Il était avec sa femme et ils ont eu un enfant. C'est écrit Vayeda Adam et Chava Ishto, et ensuite elle était enceinte. C'est la relation entre un homme et une femme, ça s'appelle dans la Torah Vayeda Adam. Il a connu sa femme. Pourquoi il a connu sa femme? C'est-à-dire que si l'on allait nous, quelqu'un il a une relation avec sa femme sans la connaître, c'est du znout. Comment on traduit du znout?
L'abomination.
Non, pas. Peut-être pas. Ouais, bon, alors je ne vais pas traduire, on va rester dans znout.
La bestialité.
Voilà, bon, c'est tous ces mots-là, mais c'est des mots un peu forts, je ne vais peut-être pas dire aussi fort que ça, mais. Ça veut dire que c'est léger, voilà, c'est de la légèreté, il n'y a pas de réalisation ici, c'est pas une union du couple, c'est quelque chose de beaucoup plus bas. Donc si Vayeda Adam, ça passe par l'écoute. Mais je voudrais rajouter un point par rapport à ça, c'est qu'en fait quand j'écoute l'autre, je le respecte, je lui donne la possibilité d'exister. Si la femme elle veut dire quelque chose, le mari il écoute, ça veut dire que la vision de la femme elle est importante. Mais c'est pas que la vision qui est importante. Quand elle dit ce qu'elle pense, elle véhicule aussi, pas seulement son regard sur la vie, mais ses sentiments, souvent. Parce que c'est pas seulement des questions techniques. C'est quelles sont ses aspirations, etc. Donc en fait, c'est une grande marque de respect. Donc pourquoi c'est tellement important l'écoute dans le couple? C'est aussi parce que ça donne de la place à chacun. Donc, juste je fais une petite parenthèse. Qui est lié à ça, c'est qu'il faut d'abord réaliser une chose évidente, on a parlé du shalom, c'est que le shalom, ça ne veut pas dire que Réhouven et Shimon, ils sont identiques. C'est Réhouven, Shimon, c'est Shimon, chacun avec ses qualités, et chacun va apporter ses qualités propres à lui, en union avec l'autre, en bonne entente avec l'autre, en communion avec l'autre, et ça, c'est le shalom. Dans un couple, ce que les goïms ont fait malheureusement, comme malheureusement dans le monde goï, l'épouse était méprisée, n'était pas respectée, de façon générale, pas au cas par cas, mais de façon générale, il y avait un dédain de la femme, un mépris de la femme, et donc, elles n'ont pas supporté ça, au bout d'un certain temps, avec les droits de l'homme, l'humanisme, etc., au fur et à mesure, crescendo, jusqu'à ce que soit arrivé au féminisme, et à l'égalité des sexes.
C'est-à-dire que la femme n'était pas respectée? Elle n'était pas respectée dans l'histoire?
Alors, ne pas être respectée, c'est par exemple, si un homme, il a une autre femme avec qui il profite, après il est avec sa femme juste pour qu'elle lui cuisine et que le soir il profite d'elle, c'est un manque de respect.
Il y avait beaucoup ça.
Beaucoup. Ouais. C'est un exemple. Mais les goïms étaient jaloux des juifs. Les goïms.
Je place ici.
Bonsoir.
Le féminisme.
Le couple juif, ça a toujours été la jalousie des goïms. Parce que les goïms, ils n'avaient pas cette marque de respect qu'avaient les juifs. C'est pas Chas v'Shalom que. Je veux pas dire qu'aucun goï n'était respectueux de sa femme. Mais le monde goï par rapport au monde juif, il y avait une grande différence dans la place de la femme dans le couple. C'est-à-dire que comme naturellement Hachem, il a fait que l'homme, c'est le ministre de l'extérieur et la femme, c'est le ministre de l'intérieur. Alors le ministre de l'extérieur qui a plus de force, la voix plus forte, qui porte plus, etc. S'il ne respecte pas le ministre de l'intérieur, il écrase. Et il l'utilise comme servante, etc. Il ne donne pas de place. Il n'y a pas de choix au niveau du... Lorsqu'il y a un échange sur une question pédagogique, éducative, etc. La femme n'avait pas de place. C'était l'homme qui décidait. Pour les enfants aussi, c'était comme ça. Le père, il décide et c'est comme ça. Mais pour le couple, la femme était surtout une servante. Et donc, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas. Et les femmes n'ont plus supporté ça, et c'est bien. Elles n'ont plus supporté, donc elles ont dit, on doit exister. Le problème, c'est qu'on doit exister, ça ne veut pas dire qu'on doit exister comme les hommes, de la même façon que les hommes. Parce que exister, ça dépend de la personnalité. Si je suis quelqu'un d'introverti, je vais essayer de vivre comme quelqu'un qui est extraverti parce que je suis jaloux de ses blagues, de son humour, de ses copains, etc. Ça n'a aucun sens, je ne vais pas vivre, je ne vais pas exister. Ça, c'est pas une vraie existence, etc. Donc l'erreur, c'était de penser que pour exister, il faut être égal dans le sens identique. Et ça, ça n'a aucun sens. Alors ils ont inventé que la différence entre les hommes et les femmes, ça découlait non pas de réelles différences génétiques et profondes, mais uniquement d'une approche sociale, d'une approche dans l'éducation, d'une approche... Ils ont essayé de créer des kibboutzim, des façons de vivre, où l'homme, le garçon et la fille vont recevoir les mêmes jeux, les garçons ils vont recevoir aussi des poupées, les filles vont recevoir aussi des petites voitures, etc. C'est un exemple. Mais ça ne marche pas, c'est faux. La différence entre un homme et une femme ne vient pas de l'approche des parents et de la société. Ça vient d'une différence fondamentale que Hachem a fait entre l'homme et la femme. Tant qu'on n'accepte pas ça, on ne peut pas se marier. Tant qu'on est féministe, on ne peut pas se marier. Quand on a une approche féministe, c'est impossible. Ni pour l'homme, ni pour la femme de se marier et être heureux.
Oh bah si c'est trop tard.
Alors il faut changer l'approche. Mais en douceur. En douceur, parce que si notre épouse... Ah, j'ai oublié de préciser. Ce que je dis, je présente des idées. Parfois vraies, peut-être parfois fausses. J'espère que non, mais certainement parfois fausses. Mais dans tous les cas, même si elles sont vraies, on ne peut pas toujours les appliquer au premier degré. C'est à adapter, c'est à voir. Je fais confiance à la... Pareil comme dans le chinour. Arrivé une fois, quelqu'un m'a demandé, est-ce que si mon enfant il enlève la kippa, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas de réponse à ces questions. Je ne pense pas qu'elles sont importantes. Ces questions-là, ce n'est pas le but des cours de ce genre, c'est de réfléchir ensemble sur les bases du chinour. Là, en l'occurrence, sur les bases du Shalom Bayit. Ce n'est pas de régler des problèmes techniques. Et c'est sûr que si une femme... Elle a grandi avec une approche féministe. Et le mari, 10 ans après le mariage, quand il commence à réaliser que ce n'est pas l'approche de la Torah et ce n'est pas l'approche qui amène au bonheur, il vient à la maison et dit hop, on revient comme il y a 100 ans, comme il y a 200 ans, et on change l'approche, il va droit dans le mur, le clash, et je ne suis pas responsable. Je me désengage, je ne suis pas responsable des pots cassés, parce que ce n'est pas Mihochma Sha'al Tazot. C'est écrit dans le Passouk. Shlomo HaMelech, il dira, Volbe, il rapporte un passage de Shlomo HaMelech. Ne dis pas dommage pour les générations précédentes qui sont passées, car ces générations ne reviendront plus. Tu dois vivre au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de pleurer les générations passées. Ça ne nous empêche pas d'étudier les générations passées, d'étudier ce qu'il y avait de vrai dans ces générations-là pour essayer d'adapter ce message à notre génération. Par exemple, je donne un exemple banal. Le Gaon de Vilna, il dit, dans une lettre à sa femme, parce qu'il avait quitté la maison pour aller en Israël. Finalement, ça n'a pas marché, mais en tout cas, il n'a pas pu monter en Israël. Mais lorsqu'il était en chemin pour Israël, il envoie une lettre à sa femme. Alors, il lui a dit, c'est très important de ne pas mentir, de ne pas jurer, etc., à faux. Donc, si les enfants, ils jurent à faux, ils mentent, etc., donne-leur des claques cruelles, méchantes. À peu près les mots du Gaon de Vilna. Celui qui est bête, alors il réplique le comportement préconisé par le Gaon de Vilna à ses enfants. Et ils les envoient droit dans la rue. Il leur donne des claques, des gifles, quand ils mentent, etc. C'est pas le Gaon de Vilna qui est responsable. C'est le manque de réflexion de cette personne. Ou le manque de respect des gens qui ont plus d'expérience que lui, qui lui disent c'est une erreur ce que tu fais. Par contre, alors qu'est-ce que je peux étudier de cette lettre du Gaon? Alors je la mets à la Gnisa. Si elle s'applique plus aujourd'hui, pourquoi je la garde? Pourquoi je ne la mets pas à la Gnisa? Ou à la poubelle, Chas v'Shalom? Parce que ce que je vois du Gaon de Vilna, c'est l'importance d'apprendre l'intégrité et l'honnêteté à son enfant. Si le Gaon de Vilna dit justement sur le mensonge ou sur la mauvaise parole qu'il faut frapper, pas sur autre chose, c'est qu'on considère ça comme dramatique. Et inversement, l'honnêteté et l'intégrité comme une des bases de l'éducation. Ça, il faut prendre comme message de la lettre du Gaon. Mais après, le moyen technique de faire passer le message, ça, il faut adapter à la génération. C'est évident, n'est-ce pas ? Donc, pareil pour ce Inyan-là. Le féminisme, c'est dramatique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut venir à la maison et dire à sa femme, allez hop, tes idées, ta perception de la vie, ta conception de la vie, c'est une bêtise. À partir de maintenant, on change. Ça, il va droit au divorce. Comment ?
Soit progressif.
Il faut que ce soit progressif. Et si on ne peut pas changer, ben on ne change pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses dans mon couple que je ne peux pas changer. Même si j'aimerais changer, je ne peux pas les changer. Donc ça ne dépend pas de moi, c'est pas ce qu'Hachem attend de moi. Ça va être, Ezrat Hachem, Adonai Vesri, mais plus, éternellement, comme c'est. Parce que ce n'est pas des choses qui me sont données. Si je ne peux pas changer, si mon approche, là ce n'est pas le cas, mais si l'approche de ma femme était une approche féministe dure, peut-être j'aurais pas pu le changer. Ça n'empêche pas d'étudier. Alors ça peut être frustrant, mais ça ne l'est pas. Parce que c'est dans le mariage, le but, c'est pas de changer l'autre, c'est d'avancer avec la personne. Mais si on n'a pas d'idée qu'est-ce qu'on aimerait de notre mariage, de notre couple, on ne peut pas avancer. On n'a que des accrochages, on ne sait même pas c'est quoi le fond du problème. On ne sait pas pourquoi on est déçu quand notre femme, elle veut vivre à notre place. C'est pas pourquoi on est déçu. Puisque dans l'approche goy, la femme, elle vit à l'extérieur autant que le mari. Le mari, il vit à l'intérieur à changer les couches des enfants. Et ça le frustre, le mari. Quand c'est la femme, quand la femme accouche, c'est le mari qui a un congé maternité, la femme qui va au travail, ça le frustre. Naturellement, ça le frustre. Mais il le sait pas, il a même pas de légitimité à le dire. Parce que s'il dit ça, il est contre la société. Dans la société, pas du tout. Pourquoi la femme, elle serait moins à l'extérieur que le mari? Pourquoi le mari serait moins à l'intérieur que la femme? Donc il est frustré, il n'est même pas conscient. S'il sait bien définir, qu'en réalité Hachem, il a créé l'homme et la femme différemment, c'est une erreur d'égoïme, malheureusement, qui venait à cause d'une autre erreur. Donc après, ils ont fait dans l'autre sens, l'autre extrême. Ils réalisent que non. Bémet, le couple, le respect l'un de l'autre, ça ne veut pas dire l'égalité des sexes. Ça veut dire chacun à sa place, comme il est, sa nature, et chacun respecte l'autre selon ce qu'il est. Maintenant, si jamais ma femme, elle voit différemment les choses, alors doucement, doucement, progressivement, etc., je vais essayer de, en fait, de lui faire découvrir ses vraies qualités, lui faire découvrir ce qui fait vraiment plaisir à mon épouse. C'est pas en la privant de ses droits, entre guillemets, qu'elle pense avoir aujourd'hui, mais c'est en essayant de lui procurer le vrai plaisir, la vraie satisfaction, la vraie sérénité qu'une femme en tant que femme et pas en tant que demi-homme peut recevoir. Parce que la femme en tant que demi-homme, elle sera toujours seulement demi. Parce que la réalité, elle est que les payes des femmes, elles sont en général plus basses que les salaires des hommes. Alors ils se battent contre ça. Mais une fois qu'ils vont réussir à casser ça, ça va être encore pire. Il n'y aura plus rien qui va empêcher la femme d'être complètement comme un homme. Pour l'instant, aujourd'hui, au moins, quand la femme accouche, s'il faut faire un choix, qui va perdre son poste, au moins, du côté financier, c'est plus kedaï que le mari continue à travailler. Parce que la paye, elle est meilleure pour le même poste. Mais quand ce sera mamache identique, ce sera la catastrophe. Parce que ça va encore, en plus, enfoncer le clou.
Ah,
c'est quel coup.
Bon,
d'accord, bravo Rachel.
C'est plus qu'idée que ce soit la femme qui.
Bon, je sais pas, il faut analyser. Là, on fait pas un cours d'économie, etc. Du coup, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que. Non, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on veut. On va droit dans une direction qui n'est pas une direction saine. Dans ce que je dis, c'est pas choquant. C'est pas choquant parce que l'approche Goy aujourd'hui n'a plus de repères. N'a plus du tout de repères dans les questions de famille, de couple, etc. Maintenant, on ne peut plus mettre père et mère, on doit mettre parent 1, parent 2, etc. On va parler de. Comment ? Les noms de famille ?
On peut choisir le nom de la femme.
Le nom de la femme pour l'enfant ?
Ou les deux.
Ou les deux. Bon.
Non, mais même, c'est les deux, c'est même quand on se marie, on le nom de la femme aussi. C'est
Bon, Baruch Hashem. Donc, on n'a plus. On a... Tout est Baruch Hashem, tout est pour le bien. Mais on n'a plus de repères. C'est pour ça que ce que je dis, je suis pas en train de dire un chidouche. On n'est pas censé, on ne peut plus aujourd'hui prendre le repère du monde ambiant et essayer de voir si je dis un chidouche par rapport au monde ambiant. Parce qu'il n'y a plus de repères. On est dans un monde de perte de, complètement de notions au niveau du couple, de la famille, etc. qui fait qu'on est obligé de revenir à la source qu'on a vue dans les générations passées et ce qu'on voit dans la Torah pour essayer de comprendre le couple. Maintenant, on doit adapter ça à notre couple, pas à l'environnement, on s'en fiche d'environnement. On doit adapter ça à notre femme. Si notre épouse, avant le mariage, et surtout si on a déjà quelques années de mariage et qu'on a déjà construit une famille avec cette approche là on peut pas, avec quand on apprend à conduire, alors si tu es dans la voie de droite, tu dois passer dans la voie de gauche ou inversement, si tu fais un coup brusque avec le volant, le gars il te prend le volant et tu passes pas le permis. Pourquoi? Parce que si tu fais un coup brusque, c'est l'accident. La voiture là, elle a pas le temps de se préparer, toi même tu perds le volant, etc. Donc il faut faire avec. Mais n'empêche que si le gars, mais toujours on te dit comme ça, quand tu fais un coup, on te dit, sache que tu dois regarder le plus loin possible pour voir de loin ce qui se passe, pour pouvoir prévenir le coup. Et deuxièmement, si tu veux changer de fil, il faut regarder loin. Mais après, il faut faire délicatement. Donc il faut avoir un objectif clair de notre couple. Et après, comment faire les choses? Très, très posément. De façon très douce, très. Et essayer de voir si je veux arriver quelque part, c'est important de définir et ensuite de voir comment le faire. Donc, c'est-à-dire que le respect de la femme, c'est extrêmement important dans le couple. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est un homme, ce que c'est une femme, quelle est la place et le rôle d'un homme, quelle est la place et le rôle de la femme, pour pouvoir faire cela. Maintenant, quand on parle d'écouter, de respecter, pour pouvoir respecter sa femme, il faut d'abord se respecter. Celui qui n'a pas de respect et d'estime de soi, impossible qu'il respecte sa femme. Il peut être une serpillère. Il peut être une serpillère qui laisse passer toujours les désirs de sa femme en premier, etc. Mais il sera malheureux. Il sera malheureux et sa femme sera malheureuse. Encore une fois, si c'est le cas malheureusement, alors il faut voir comment faire. Mais dans l'approche, en théorie, la vision de la Torah, c'est pas que le mari, il fait tous les désirs de sa femme. C'est pas le couple juif. C'est pas ça. Bien sûr qu'il va être à ses petits soins, il va s'occuper d'elle. Mais il ne fait pas les quatre volontés de sa femme. Ce n'est pas la femme qui gère la maison, qui gère la façon de voir l'éducation. Comment ? Alors là, ça c'est délicat parce que il y a différentes. J'imagine qu'il y a différentes origines ici. Et d'après les origines, la vision du mariage, du couple, de l'homme, de la femme. Alors, celui que de toute façon, c'est un régime totalitaire chez lui de l'homme, j'ai rien dit. Saddam Hussein, il est déjà mort. J'ai pas besoin de. Voilà, c'est pas le but. On n'est pas Chas Shalom avec Assad, etc. C'est pas le but. Mais si inversement, on n'a plus du tout de repères, c'est délicat. Si on n'a plus du tout de repères, le mari, le but dans le mariage, c'est juste de donner à sa femme et de donner, ou bien de faire ses volontés, c'est pas le mariage. C'est autre chose. C'est pas le mariage. Le mariage, c'est quand tu auras l'otov et yot à Adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. Ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais faire quelqu'un qui va l'aider. Donc l'homme, il a un projet sur terre. Chacun doit définir quel est son projet dans la vie. S'il n'a pas de projet, c'est malheureux. Il a un projet et sa femme l'aide à réaliser son projet.
On doit se faire un projet, chacun doit avoir un projet.
Tu n'as pas de projet dans ta vie ?
J'ai pas de projet. On doit avoir un projet.
Moi, j'ai un projet. Monsieur Eli, il a un projet. On a des projets dans notre vie. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets spirituels, mais on a des projets. Réaliser une famille aussi, c'est. Fonder une famille aussi, c'est un projet. Fonder un couple aussi, c'est un projet. C'est pas que mettre de l'argent dans le compte en banque ou faire des vacances. C'est aussi un petit projet, aller faire des vacances. Non. Je veux pas rentrer. C'est pas à moi de définir pour toi quel est ton projet. Mais si tu n'as pas de projet, alors ta femme, elle fait quoi? Elle peut pas t'aider à réaliser quelque chose? Tu n'as rien à faire dans ta vie.
Ouais. Ça veut dire que la femme ne peut pas avoir de projet?
Non, je n'ai pas dit que la femme ne peut pas avoir de projet. Là, je vais expliquer. Je sais que je choque certains.
Juste encore une question. Ouais. Est-ce que le Ezer Kenegdo, il est unidirectionnel ou est-ce qu'il peut être bidirectionnel?
C'est-à-dire?
Ce que tu as dit tout à l'heure, Ezer Kenegdo, tu as parlé de l'homme, tu mets l'homme en premier. Et ensuite, ce que tu dis, c'est que...
La femme,
et dire qu'anecdote, la femme, elle vient aider pour le projet de l'homme.
Mais l'homme n'aide pas la femme.
Si j'entends le discours depuis tout à l'heure, je vous crois, ouais. Je suis arrivé au milieu, je m'en excuse. Tu dis que, en fait, le côté féministe, il faut peut-être un peu
le calmer. Ouais.
Et le côté masculin, il faut aussi qu'il prenne. Enfin, je comprends du coup, ouais. Le côté masculin, il faut prendre sa place. Et du coup, dans le discours, j'ai un projet qui a l'air d'être porté par l'homme et défendu par la femme.
Et développé par la femme.
Et développé par la femme. Ça veut dire que forcément, il doit avoir le même projet.
Ouais, alors on va définir. Moi, juste, je veux expliquer. Vous avez parlé de masculin et féministe. Je n'ai pas parlé de masculin et féministe, j'ai parlé du féminisme. Et j'ai parlé contre le féminisme et pour l'équilibre. Mais ce n'est pas que l'homme est plus développé que la femme. La femme n'est pas féministe. La femme est femme. Le féminisme, c'est une approche de la femme qui la rend soit femme objet, malheureusement, soit femme du travail. C'est pas la femme. La femme, c'est la mère... des enfants, c'est l'épouse de la femme, c'est la sœur du mari, c'est la sœur de ses sœurs, c'est la fille de ses parents. C'est pas la femme au travail, ni la femme qui est femme objet. Cette femme-là, c'est une femme perdue, en totale perdition. Et donc, je suis pas en train de développer l'homme plus que la femme. Mais, bien sûr, que l'homme, il a un projet, et la femme va l'aider à réaliser son projet. Je ne suis pas en train de rabaisser la femme. Dans la Torah, la femme est extrêmement respectée. Mais pas en tant que ministre de l'extérieur. Pour simplifier un petit peu, je ne voulais pas parler vraiment de ça, mais pour simplifier l'idée. Expliquer, parce que vous avez parlé de ça. L'homme, il a un projet, la femme, elle aide à réaliser. Concrètement, c'est quoi? C'est très simple. Prenons par exemple les enfants. C'est sûr que je ne suis pas relèque avec le fait que l'une des bases du mariage, c'est aussi pour avoir des enfants. qu'est-ce qui se passe? Si on réfléchit un instant, comment ça fonctionne? Comment on a des enfants? Une relation entre l'homme et la femme, 9 mois de grossesse. Ça, c'est déjà pour avoir l'enfant. Mais c'est pas logique. L'homme, c'est un instant de plaisir. Ça dure quelques minutes. Il a du plaisir. La femme, elle porte 9 mois l'enfant. C'est pas beau, c'est pas logique. C'est pas logique. Alors, on peut répondre, c'est la klala de Chava, puisque Adam Arishon, il a reçu la klala de travailler dans les champs. Bezeat apecha tocha lechem, tu vas semer, tu vas labourer, tu vas couper les ronces, etc. Et la femme, beitzavon tel dibanim, dans la souffrance. C'est vrai, les deux, chacun a reçu sa klala. Mais c'est pas un hasard que la klala de l'homme, c'est l'effort à l'extérieur, et la klala de la femme, c'est l'effort à l'intérieur. Mais en tout cas, le côté souffrance qu'il y a dans le travail de l'homme, le côté souffrance qu'il y a dans la grossesse de la femme et l'accouchement, ça, c'est une punition. Mais le côté que l'homme, il va se battre et travailler à l'extérieur, et la femme, elle va développer l'embryon pendant 9 mois, ça, c'est pas une punition. Ça, c'est la réalité profonde du projet d'Akadosh Baruch Hu. Comment ?
La nature.
La nature. C'est-à-dire que le projet d'Akadosh Baruch Hu, c'était que l'homme, il a une idée. Par exemple, si on veut lancer un projet, est-ce qu'on peut faire ça sans un secrétaire ? Impossible. Okay. Alors malheureusement, ça fait des problèmes, parce qu'en général, c'est pas un homme, c'est une femme, secrétaire. Mais à part ces problèmes-là, on peut pas réaliser de projet sans une secrétaire. Pourquoi ? Parce que l'homme, il a pas les nerfs pour les détails. Il est pas capable de réaliser. Impossible. Il a un projet, une idée fugace comme ça, et après, il faut quelqu'un qui le réalise. Dans une entreprise, tu as un génie qui lance un projet. Mais est-ce qu'après, lui, il va le réaliser ? Si ça dépend de lui, dans 10 ans, rien ne sera fait. Il y a quelqu'un qui le met après à l'œuvre et qui voit les problèmes. Quand on confronte le projet de base à la réalité, c'est toujours compliqué. Toujours. Dans l'exemple, le mari dit on va en vacances. Allez hop, en été maintenant, dans 2 mois les vacances, on va à Miami. Très bien. Et la femme elle dit ok, j'accepte. Comment on va payer? Quel billet on achète? Quel hôtel on prend? Etc. Et qu'est-ce qu'on prend comme nourriture? Et qu'est-ce qu'on va manger cachère? Ou qu'est-ce que les enfants ils vont faire? C'est toujours comme ça. Je pense que dans la majorité des couples, c'est comme ça. Chaque projet, Pessah, allez hop, on invite tout le monde pour Pessah. Le mari dit, ah, mais magnifique. Tu sais, un tel, là, je vois qu'il passe Pessah seul, on va l'inviter. Et les petits cousins, là, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on les invite. La femme dit, allez, si elle est gentille, allez, on est partant. Et après, elle demande à son mari, lui casse les pieds, mais comment on fait? Où on achète? Et où on les casse dans la maison? C'est toujours comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça qu'Hachem l'a fait. L'homme, il a des projets. Je ne dis pas que parfois, c'est indifférent. Mais de façon générale, c'est comme ça que ça fonctionne. L'homme, il a un projet, il n'est pas capable de le réaliser. Impossible. Impossible pour un homme de réaliser tout seul un projet. De façon générale, je parle dans l'idée. Dans la pratique, ça peut être différent. Mais dans l'idée, c'est toujours comme ça. L'homme, il a un projet. Et après, la femme, elle va l'aider à réaliser. Et quand on rencontre la vie, c'est-à-dire que l'idée, elle prend un instant. Et c'est un plaisir. En général, une idée, c'est toujours un plaisir. Comme l'enfant, on a dit. La relation, c'est un plaisir. L'idée, quand on lance une idée, on est toujours content. Quand on invite quelqu'un, quand on lance un projet de faire des vacances ou même une balade, on est toujours content, c'est un plaisir. Et après, le réaliser, à quelle heure il est le train, etc. Elle ou la carte, elle ou le. Chaque fois, il y a une réalité, on est confronté à une réalité. Et c'est la femme qui va réaliser ce projet, qui va pondre les œufs, qui va garder l'enfant, etc. pendant 9 mois. Pareil dans l'éducation. Le mari il dit les Shema Beni Musa Ravicha Val Titoch Torah Temecha. Le père, il va lancer, juste que je précise, cette idée de la, par exemple, de comment on a un enfant ou les projets, etc. C'est un magnifique livre de Akiva Tatz. Certainement beaucoup connaissent ici Akiva Tatz. C'est magnifique, un élève de Rav Moshe Shapira Zichrono Livracha, donc il développe des idées de base de la vie, du judaïsme, dans différents livres, La Trame de la Vie, Jeune et Juif, Le Masque du Monde, etc. Alors il me semble que le livre La Trame de la Vie, c'est tout le livre sur cette idée-là. Des 3 étapes. L'étape de l'idée, ou de la relation dans une relation, dans un couple. L'étape 2, où la femme, etc., la réalisation, c'est-à-dire la confrontation avec les réalités pour créer ce projet, le réaliser. Et finalement, le résultat. Le résultat, c'est l'enfant. Le résultat, c'est le mariage de l'enfant plus tard. Le résultat, c'est la maison qui est. Le mari dit alors, on achète une maison. Bon, tout. Ça, il développe magnifiquement dans La Trame de la Vie, il me semble. Ça fait 10 ans, peut-être, j'ai pas lu, mais en tout cas, là-bas, je crois. Il développe cette idée. C'est Kedai de voir. Parce que ça aide énormément à comprendre aussi dans le couple. C'est ça que la Torah elle dit Lotov eyot Adam Levado et c'est Loezer Kenegdo. C'est-à-dire que l'homme, il a un projet à réaliser. Hachem, il a créé Adam Arishon, il n'a pas créé Adam et Chava. Quoique, dans la Torah, c'est ambigu, parce que d'un côté, c'est écrit qu'il a créé Adam et Chava. Là, c'est écrit qu'il a créé Adam. Ensuite, il a pris la côte de Adam et il a créé Chava. La Gemara parle de cette question. Il y a deux chapitres dans Pereshit. Ce qui a créé l'homme et la femme en même temps, mais il a créé l'homme puis la femme. Mais Bepashtu, dans la Torah, c'est écrit qu'il a créé l'homme. Il lui a montré tous les animaux. Il a dit, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas me réaliser par les animaux. Il faut comprendre c'était quoi le dialogue, mais en tout cas, comme ça la Torah dit. Et donc, enfin, comme ça la Torah sous-entend, donc il a endormi Adam et il a créé Chava pour l'aider à réaliser son projet.
Et ça serait toujours le projet de l'homme ?
Alors, c'est ce qu'on a dit, de façon générale. Il faut faire avec finesse, avec doigté. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont leur projet. Donc on ne va pas venir et dire « t'as plus de projet ». Ça n'a aucun sens. Là, on est en train de la mépriser. C'est pas ça le but.
Non, mais
voilà.
Mais dans... c'est la femme qui est un petit peu plus sérieuse que plus carrée. Est-ce que c'est pas mieux de suivre ses projets à elle ?
Oui, mais je comprends. Mais le projet de vie n'a pas tellement de rapport avec combien on est carré, combien on est. C'est le projet de l'homme. Le projet de vie de l'homme. Parce que l'homme se réalise. C'est sûr que si la femme elle a plus la tête sur les épaules, c'est elle qui va s'occuper de la paperasse. Mais c'est pas la question. Là, on n'est pas en train de savoir comment on va gérer l'histoire. La question, c'est quel est notre but dans la vie ? Si le mari n'a pas de but, n'a pas d'objectif.
En général, le mari, son but, c'est le travail et la femme, son but, c'est la maison.
Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste parce que ça veut dire que la femme, en fait, elle veut s'occuper que de la maison. Le mari, il s'en fiche de la maison. Et la femme.
Non, elle... je dis pas qu'il s'en fiche. Mais en général, c'est. Le côté maison, c'est plus.
Ça, c'est vrai. Voilà, le côté maison, c'est plus la femme. Le côté travail, c'est plus l'homme.
Mais ce qu'il faut. La maison, elle, que lui.
Voilà, c'est comme ça que ça doit être, ce que je dis depuis une demi-heure.
C'est du tout, justement, c'est qu'il n'y ait pas ce genre de calcul. C'est d'être lié l'un avec l'autre et chacun fait ce qu'il peut. Je pense, hein, parce que là, vous êtes en train de dire l'homme fait et la femme fait pas. Alors qu'en fait, ce que l'homme peut faire, l'homme le fait. Ce que la femme peut faire, ben, la femme le fait. Et c'est ça l'entente, je pense.
Voilà, bien sûr. Non, regardez,
moi, je parle de ce principe-là. Ben, mon principe, c'est. Que l'homme et la femme ne fassent pas de calcul. Ce que moi je peux faire, je le fais. Et ce que toi tu peux faire, tu le fais. Et on se lie les deux.
Association.
Je comprends. Je comprends. Regardez.
Je
pense qu'il y a beaucoup de. Si on résume.
Si on dit c'est que l'homme qui a le. Même qui a 60-40, ça devient vraiment.
Je sais. Si on arrête maintenant. Et je demande à Rabbi Ilan qu'est-ce qu'il a compris de l'échange. Qu'est-ce que vous avez compris l'échange ? Vous n'avez pas compris la même chose. On n'est pas du tout, ça ne dérange pas après. On n'est pas du tout en contradiction d'idées. On dit exactement la même chose, quasiment la même chose, pas exactement la même, mais quasiment la même chose. Je suis pas en train de parler de l'entraide. Je suis pas en train de parler de la participation. C'est pas du tout l'objectif ici. L'objectif c'est de définir ce que c'est le couple. Et donc si on prend l'exemple par exemple, de la maison et du travail, si on dissocie le monde du travail et le monde de la maison. Et le domaine du travail, c'est le domaine qui intéresse que l'homme. La femme s'en fiche royalement. Et le domaine de la maison, le mari n'a pas d'intérêt pour ça. C'est dramatique. Ça ne veut pas dire que la femme va s'intéresser au travail du mari dans les détails. Elle ne comprend rien, parfois. Et le mari n'a pas les nerfs de l'expliquer. Mais elle est intéressée que son mari réussisse professionnellement. Pas parce, une seconde. Mais pas parce qu'elle a besoin de Parnassa. Et parce que le mari se réalise par cette profession. Par cette réussite professionnelle et sociale. Et inversement, le projet de la famille, ce n'est pas le projet de la femme, c'est le projet du couple, ensemble. Et ce projet-là, c'est-à-dire quoi que c'est le projet du couple ensemble ? C'est-à-dire que si le mari s'en fiche dans quelle école l'enfant est, quels sont les sentiments des enfants quand ils vont dormir, etc., etc., la femme, elle gère tout. Juste 2 minutes d'intention, allez, signe le papier parce que j'ai besoin de... C'est elle uniquement qui va toujours dans les réunions parents-professeur. C'est elle qui va s'occuper du bien-être des enfants. C'est malheureux. C'est sûr que dans la réalité, elle va passer beaucoup plus de temps. Si tout va bien, si tout est sain, c'est beaucoup plus sain que ce soit principalement la femme qui s'occupe de ce détail-là. Le mari est occupé plus à l'extérieur, c'est sûr. Mais si ce n'est pas important pour lui, si ce n'est pas un projet commun, alors c'est problématique.
Il y a maison, travail, famille. C'est trois problèmes, hein.
Trois problèmes, trois pôles.
Ouais.
Mais
trois pôles.
Famille, maison.
Ça, c'est-à-dire, tout ce qui est travail, entre guillemets, va pas trop s'en occuper.
Je suis d'accord avec vous.
Tout ce qui est maison, le mari va pas trop s'en occuper, mais tout ce qui est en
Voilà. Alors là on se rejoint.
C'est quoi de la maison?
Là on se rejoint. Là on se rejoint.
Mais quoi, son avis, la maison, c'est pour la famille.
Il y a 50 ans, il y a des femmes qui viennent
sur tout. Ouais. La déco, la maison,
l'argent, ça c'est.
Voilà, mais dans la maison, la famille, oui, effectivement, bien sûr qu'il faut qu'on parle.
Alors la maison et la famille, Khadak, il faut discerner, c'est vrai. J'avais pas compris ce que vous disiez. La maison, au niveau technique, la cuisine, les meubles, etc. D'accord. Pour moi, la maison, c'est baït. Baït, c'est la maisonnée. Attends, je parlais de la maisonnée. La maison, c'est autre chose. La maison, c'est... C'est vrai. La maison, c'est le rôle de... C'est le rôle de la femme, le mari... Même le mari doit montrer de l'intérêt, parce que la femme, elle se casse la tête pour mettre le cadre ici ou le cadre là-bas. Il doit montrer de l'intérêt, de la reconnaissance, etc.
Même si on
c'est sûr. Parce que c'est... Mais il faut comprendre. C'est pas des pôles qui sont complètement... Ce que je veux rajouter sur ce que vous dites, c'est sûr que c'est vrai. J'avais mal compris le mot maison. Je croyais que vous parliez de la maisonnée. Vous parliez de la maison technique. C'est sûr que c'est le rôle de la femme. Mais quand le mari montre de l'intérêt pour ça, c'est pas seulement parce que, bon, comme sa femme, elle s'intéresse, donc il va montrer l'intérêt. C'est parce qu'en réalité, c'est un tout. On n'a pas trois centres d'intérêt. Le travail, la maison et la famille. On a un grand centre d'intérêt quand on parle du couple. On a la maisonnée. Et cette maisonnée, elle est basée sur différentes facettes. S'il n'y a pas de travail, pas de relation à l'extérieur, il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas d'aboutissement extérieur, la famille ne tient pas la route. S'il n'y a pas de maison accueillante, chaleureuse, sur le rôle de la femme, il n'y a pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un projet commun de fonder une famille saine et sainte. Et ce projet-là a besoin de plusieurs facettes. Donc en fait, quand on demande est-ce que c'est le projet de l'homme qui prime ou le projet de la femme qui prime, c'est parce qu'en réalité, on est dans un monde goy. C'est pas grave, mais il faut réaliser qu'on est dans un monde goy. C'est-à-dire que le projet de la Torah... Parce qu'en fait, si ce que je dis, c'est fou en fait. Je suis en train de dire que l'homme, il a un projet, la femme n'a pas de projet. C'est dramatique.
Non, pourquoi chacun, il a son projet?
Non, ils ont un projet commun. C'est ça l'idée.
Non, mais comme je reviens sur mon idée. Mm-hmm. C'est-à-dire le mari, là, entre guillemets, son projet, c'est son travail. La femme, son projet, elle, c'est la maison, mais les deux convergent vers la famille.
Vers la famille, ça, voilà. Exactement, le projet commun. Voilà.
C'est-à-dire, chacun...
Très, très bien. Chacun a un centre d'intérêt, ou bien une occupation, on va dire.
Pour ce projet.
Pour ce projet. Très bien. Quand on fait un projet, par exemple... Dans un projet dans la logistique, il y aura quelqu'un qui va s'occuper de la vente, quelqu'un qui va s'occuper de la création, quelqu'un qui va s'occuper.
Hein.
Comment ?
Parce que celui après qui fait une erreur dans ce projet.
Bon, Hachem, il est patient.
Tu aurais dû t'occuper de ça, voilà.
Bon, ça va. Il faut aller doucement, doucement. Mais en tout cas, chacun a un rôle. On n'est pas en train de dire que le rôle de l'un n'est pas le rôle de l'autre. Il est le même que l'autre. Au contraire, chacun a un rôle, mais ils ont le but commun. Sur ce but commun, en général, c'est ensemble qu'ils vont définir. Mais c'est surtout le mari qui va donner sa marque, parce que la femme est venue pour l'aider à réaliser son projet. Mais ça va être finalement un projet commun. Chazé Shalom. Parce que sinon, bien sûr, sinon, la femme, elle est lésée. Dans la Torah, la femme n'est pas lésée, chas v'shalom. Mais elle se réalise. Alors là, je veux juste... Quelle heure il est là? Je ne veux pas trop...
22h10.
Alors, je vais rajouter un point pour essayer de fermer ce sujet. Après, ce point-là, il va aboutir à d'autres sujets à venir, Bezrat Hashem. Mais il faut comprendre comment c'est possible que la femme, en fait, accepte ce regard-là. On est tellement habitué au regard du féminisme que ce que je suis en train de présenter, c'est moche. Un homme n'aurait jamais accepté ça. Un homme qui accepte ça, c'est un homme faible, qui n'est pas vraiment homme. Donc il peut accepter. Parfois on accepte, on n'a pas le choix. On a besoin de parnassa, donc on accepte d'être la deuxième roue, la troisième roue. Mais en fait, notre avis n'importe pas, etc. Mais c'est pas du tout ça dans le couple. En réalité, Hachem, il a créé la femme. Et ça explique aussi les besoins. Quand on va parler des besoins d'une femme, ce qu'elle attend de son mari, en tant que femme, pas le féminisme, en tant que femme. Elle attend l'attention, l'écoute, le respect, la tendresse, tout ce qu'elle attend. Et l'homme, il attend autre chose. C'est pas qu'il attend pas ça du tout, mais il attend autre chose. Mais elle attend ça pourquoi? Parce qu'en réalité, on est en train de dire que la femme, elle se met de côté, entre guillemets, pour réaliser le projet du mari. Pourquoi elle le fait? Jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans, selon l'âge où elle s'est mariée et la culture dans laquelle elle a grandi, elle avait des projets. Elle avait énormément de projets. Vous êtes quelqu'un de très réussi sur le plan social, professionnel. Elle se marie, elle range tous ses projets, toute sa carrière pour le projet de son mari. Quelle est la logique de ça? Ça, c'est... Je dis pas, encore une fois, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2019, faut voir comment réaliser ça. Je ne suis pas venu pour faire des trucs brusques. Mais l'idée, c'est que Ve'elisher teshukater Vuim sholbar. Ça vous dit quelque chose? C'est quoi? C'est une Mishnah? C'est une Gemara? C'est quoi?
C'est un
pasouk. C'est un pasouk dans Bereshit. Hachem dit que à la femme, à Chava, Elisher teshukater, à ton mari teshukater. C'est quoi teshuka? Ta volonté, ton aspiration. Je sais pas comment traduire ça. C'est pas les traductions exactes du mot teshuka. La tchouka, c'est par exemple quand une femme attend son mari le soir pour qu'ils soient ensemble. Ça, c'est la tchouka d'une femme pour son mari. Donc, je ne sais pas comment traduire. Si le couple fonctionne bien, bah, au Hachem, la femme attend les moments d'intimité. C'est la tchouka de la femme qui attend son mari. Ve'elisher teshukater. Et là, la Torah, désolé, elle est, comment on dit, misogyne. Elle est misogyne. Ve'uim sholbar. Je ne veux pas traduire. Ve'uim sholbar. Dominer. Moshel, c'est dominer. Il te dominera. C'est moche quand même. La Torah, elle parle comme ça, alors qu'on dit que la Torah, elle prône le respect de la femme, etc. Oui, Mcholbar, c'est pas Chas v'Shalom comme Saddam Hussein ou comme Assad, pas du tout. C'est que le mari, il a un projet et la femme, il donne une direction à la famille. Et la femme, elle dit, je suis heureuse avec ce projet-là. Je veux participer à ce projet. De bonne humeur. Quand on a un leader qui est gentil, un capitaine d'équipe qui respecte ses coéquipiers et il leur dit... ou un coach dans une équipe, et il leur dit c'est comme ça qu'on va aller, dans ce sens là on va aller, ils sont heureux de participer à ce projet parce qu'ils les respectent et ils donnent à chacun sa place d'après les qualités de la personne, d'après les sensibilités de la personne. Et s'il sait qu'un des coéquipiers il est mal à l'aise avec ce coéquipier là alors il le mettra sur une autre aile, etc., parce qu'il n'est pas à l'aise. Il pense un roi, il pense pas à lui-même, il pense à ses sujets. L'avdil, dit pas, c'est à dire que l'approche de la Torah, c'est des mots un peu forts. Je sais que c'est un peu fort, c'est les mots de la Torah. J'essaye de les adoucir un petit peu, même si j'ai tort de les adoucir. Mais la tchouka de la femme, c'est ça. C'est la tchouka de la femme, c'est vers son mari. Et si le mari respecte sa femme, et l'écoute, et la comprend, et a la tendresse pour elle, et il fait les choses en finesse, alors dans un monde normal, pas tronqué et truqué, elle a aucun mal avec ça. Elle est heureuse. Dans le monde d'aujourd'hui, elle attend ça, bien sûr qu'elle attend ça, vadaï. Si on réfléchit, je vais être un peu brut, mais si je prends la mitzvah de Ona, d'après la Torah, l'Echatrila, Meikaradin, si on peut, ça doit être l'homme en haut et la femme en bas. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça que, c'est comme ça que c'est bon pour la femme. C'est comme ça que c'est bon pour la femme. Je ne suis pas en train de parler sur le côté halakhique maintenant, comment il faut faire. Mais ce que la Torah préconise, c'est ça. Et si... cet homme et cette femme, ils veulent l'inverse. Que de façon continue, ce soit la femme en position en haut, c'est qu'ils ont un problème. C'est qu'ils ont un problème, c'est malheureux. La Gemara dit des mots forts sur ça. Alors s'il y a de temps en temps des raisons de faire autrement, c'est une autre question. Mais l'approche de la Torah, c'est ça, ils sont bien ensemble. C'est pas Chas v'Shalom, c'est un moment d'union, c'est un moment de communion, un moment d'unité. Et pourtant la Torah, elle dit comme ça. Elle dit, la Gemara, elle dit dans ma série des Darim, si c'est les deux ensemble, c'est pas bon. Si c'est la femme en haut, c'est pas bon. C'est l'homme en haut. C'est pas chas v'shalom négatif. Pas chas v'shalom que l'homme écrase la femme. Une femme normalement constituée, un couple normalement constitué, ils sont heureux comme ça. Un couple goy, ils sont peut-être pas heureux comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si on est à moitié goy en nous, moi je suis un petit peu goy, mais je veux, il faut que je sache au moins définir ce qu'est être juif. Et après, essayer d'aspirer à ça. Pourquoi? Parce que, en fait, pas seulement parce que je veux être plus juif pour avoir plus de sakhar ou là-bas, mais parce que je veux mieux réaliser mon couple. Et puisque c'est Hachem qui a créé l'homme, c'est Hachem qui a créé la femme, c'est Hachem qui a créé l'être humain, donc c'est lui qui sait comment l'homme et la femme fonctionnent. Il n'y a que lui qui sait. L'auto viod à Adam Levado et c'est l'oezer kenegdo. Donc il sait comment l'homme fonctionne. Il sait ce qui rend heureux l'homme, il sait ce qui rend la femme. Et il sait que Elisher teshukater im sholbach. Mais si chas v'shalom, c'est pour ça, pourquoi c'est tellement grave? Le Stipeler, il dit que si un homme, il est avec sa femme, sans avoir fait pius, sans avoir passé beaucoup de temps, ou selon la personne, pour rapprocher sa femme de lui, avec des mots tendres, avec chibouk, venichouk, etc., on en parlera, Bezrat Hashem, c'est comme un assassin. Comme ça, il dit le Stipeler. C'est de l'assassinat. Parce que on va finir par ce point-là, juste pour apaiser un peu les esprits par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Par chas v'shalom, c'est un manque de respect de la femme. C'est pour ça que je parle. C'est pas pour parler de ce sujet en soi. Le Stipeler, il parlait, parce que certains, malheureusement, avait l'approche de la mitzvah Ona, comme si c'est quelque chose de technique, l'homme c'est un tzaddik, il est dans son monde, dans sa Torah, etc. Il fait ce qu'il faut avec sa femme, comme ça elle est enceinte ou je sais pas trop quoi, et il continue sa route. Le Steipeler, il dit ça, c'est de l'assassinat. Karov l'epikouach nefesh. La femme, presque, elle meurt de ça. Et il croit qu'il est en train de faire des madrigodes rouhani, c'est un assassin. Malheureusement, on ne voit pas le sang qui coule. Alors l'homme peut continuer à faire comme ça, mais c'est de l'assassinat. Au même titre que quelqu'un qui est avec une autre femme ou qui est sur télé-réalité, après il va être avec sa femme. C'est un assassinat. C'est un manque de considération totale pour sa femme. Il ferme l'iPad, il dit maintenant on est ensemble. Elle veut lui cracher à la figure. Mais et donc celui qui a pour ses madrigodes rouhaniot, il dit à sa femme on est comme si c'était un objet, chas shalom, c'est terrible. Mais alors qu'un homme, sa femme elle est pas tendre avec lui, mais bon, ils font kiviachol leurs besoins entre guillemets entre eux, parfois il s'en fiche le gars, c'est malheureux, mais il est pas méprisé par ça, parce que lui il continue sa vie, il a pas seulement de plaisir et il continue sa vie. Mais la femme, tout ce qu'elle a dans ce rapport de couple, c'est la tendresse du mari, c'est la considération de son mari, c'est ce qu'il pense à elle. Si chas v'shalom il pense pas à elle, il a tué sa femme. Donc si Khadisham, quelqu'un ressort de cet échange d'aujourd'hui en disant que mon approche c'est qu'il n'y a pas de respect de la femme ou de considération, alors je préfère ou arrêter de parler ou qu'il arrête de venir, parce que dans ce cas-là je suis un assassin. Je prends pas sur moi ce meurtre-là. C'est Khadisham, pas du tout l'approche. Celui qui manque de considération. La Gemara dit l'olam Isaïr Adam Beona Tishto chez Dimata Metsuya. Parce qu'on a vu la paracha de Béar, on a vu la mitzvah de Onat Varim, le parchas v'shalom, blesser une personne. Alors mon père il a dit ce Shabbat, quand tu vois quelqu'un qui plante 84 coups de couteau dans le journal, tu vois 84 coups de couteau, tu vas t'évanouir. Et il a assisté à un échange dans un couple, 25 minutes, le mari avait environ 84 coups de couteau par la parole, et la femme un peu plus, un peu moins. Seulement on voit pas le sang qui coule. Si on voyait le sang qui coulait, mais le sang de la femme, il coule, à flot malheureusement. Si chas v'shalom, un homme il est avec sa femme sans la respecter avant, sans lui montrer de la considération, sans montrer qu'elle est la plus importante pour lui, il l'a tué. Si elle a des projets et qu'il ne respecte pas les projets de sa femme, c'est dramatique. Pourquoi la femme est tellement brisée quand elle dit maintenant je veux aller à... Chacun son projet, ça peut être un projet de vacances, ça peut être un projet pour un truc à la maison, pour une fleur, pour... Et le mari ne prend pas en considération, il donne un coup de couteau à sa femme. Pourquoi ? Le mari, ce n'est pas le même coup de couteau quand elle ne s'intéresse pas à son projet. Mais la femme, oui. Parce que la femme, elle a été faite de cette façon par Kadosh Baruch Hu, pour donner toute sa vie pour son mari. Mais pourquoi ? Ce n'est pas chas v'shalom dans un sens. C'est dans les deux sens. C'est parce que la femme, elle se réalise par ça. Le mari, il la considère, il lui donne de l'amour, de la tendresse. Il s'intéresse à elle, il réfléchit avec elle. Il pense avec elle comment on va réaliser le projet. Et elle est heureuse. Si chas v'shalom il impose, c'est un assassin. On parle pas de ça. Un melech, un roi, c'est quelqu'un qui est nimlach, qui prend conseil. Celui qui prend pas conseil, il impose, c'est un dictateur. On n'est pas du tout dans le cadre de la Torah. Ça, c'était l'égoïme autrefois. Et ça a amené le féminisme. Donc si c'est pour revenir, pour enlever le féminisme, pour revenir au système totalitaire d'égoïme, c'est pas la peine. Mieux vaut rester dans le féminisme, c'est peut-être plus proche de la Torah que le système totalitaire. Pourquoi, si j'ai parlé tellement longtemps de l'inverse, c'est juste parce qu'aujourd'hui, on est plus habitué à l'erreur du féminisme qu'à l'erreur du système totalitaire. Bon, certains couples, non. Certains couples, c'est le mari, c'est un dictateur. Donc celui qui s'est comme ça chez lui à la maison, j'ai rien dit, j'ai dit que les deux, trois dernières minutes. Il faut chaque fois ajuster. Je voulais juste voir que le féminisme, c'est délicat. Et il faut comprendre que la réalisation de l'homme et de la femme, c'est pas en faisant l'égalité, mais en essayant de montrer le rôle du mari et comment l'homme et la femme, ensemble, ont réalisé ce projet-là. Mais c'est sûr que ça passe tout d'abord par le respect, l'écoute et la tendresse. Bon, voilà.